priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la psychochirurgie avec le docteur Marc Lévesque, qui est neurochirurgien au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il vient de publier la psychochirurgie aux éditions Springer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Et on va maintenant parler recherche dans ce domaine. Et nous avons donc au téléphone le professeur Emmanuel Hirsch, qui est directeur de l'espace éthique de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est responsable du département universitaire de recherche éthique à Paris Sud. Professeur Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Dans la première partie de l'émission, le docteur Marc Lévesque nous a bien expliqué ce qu'était cette psychochirurgie, quelles pouvaient être ses applications. Il nous a paru important d'aborder toutes les questions de recherche, mais surtout les questions éthiques liées à la recherche. Alors justement, quelles sont les questions éthiques que pose la psychochirurgie ?
Il y a d'abord une question éthique importante, c'est d'apporter à la personne malade ce qui est de nature à évoluer positivement et à compenser ses déficits. Et donc la démarche thérapeutique, hein, et la vraie question c'est est-ce qu'on est du côté de la recherche scientifique ou dans une démarche thérapeutique. Il s'avère que les progrès dans cette discipline sont flagrants pour certaines maladies. Donc premier point, je crois que ce qui est important c'est de tenir compte de l'intérêt direct de la personne malade et puis également de sa capacité, c'est tout ce que cette technique permet, de réversibilité. Parce que c'est pas un acte finalement définitif. On voit pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, si à un moment donné leur capacité d'intégrer cette régulation n'est plus compatible avec un certain nombre d'évolutions qu'elles ont, elles peuvent toujours y renoncer. Donc on est dans quelque chose d'assez proportionné, me semble-t-il. Ce qui est important, c'est que la personne soit vraiment compliante, c'est-à-dire qu'elle accepte ce type d'approche, qui est une approche sensible, ça touche au cerveau. Et lorsque vous êtes atteint de maladies qui entravent votre existence et qui vous perturbent totalement, vous regardez l'avantage et l'inconvénient. Donc aucune technique n'est parfaite, ce sont des approches. On peut se dire aussi que ces techniques, elles évolueront encore et elles s'amélioreront. Donc ce que fait Marc Lévesque est important parce qu'il a vraiment posé dans son livre à la fois les enjeux scientifiques, avec une rétrospective sur toutes les hérésies et les errances qu'il y a eu en matière de manipulation et d'intervention chirurgicale sur le cerveau. Là, on est dans quelque chose qui se passe de manière démocratique, avec une certaine forme de transparence, avec l'avis de comités d'experts et des comités d'éthique.
Et alors justement, de façon très concrète, comment peut-on mener des essais thérapeutiques dans ce domaine ? Il y a des règles ?
Les règles, elles sont très strictes, hein. Vous savez, depuis le code de Nuremberg en 1947, l'élément important, c'est d'abord le consentement de la personne. Alors, lorsque vous êtes atteint d'une maladie, encore une fois, qui remet en cause totalement votre vie sociale, qui souvent d'une certaine manière vous réduit dans vos capacités d'autonomie, la question donc du consentement est quelque chose d'important. Mais tous les protocoles sont évalués. Vous savez que en France, on a, comme dans les pays développés, des règles extrêmement strictes. Et il y a des comités de protection des personnes, donc auxquels le chercheur soumet son projet de recherche, qui vont d'abord analyser la pertinence scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie argumentation scientifique qui va dans le sens de cette évolution, et ensuite tout l'accompagnement qui va être mis en œuvre pour respecter les droits de la personne malade et ses choix. Alors un des premiers points importants, c'est comment on informe la personne. Et donc il y a un protocole d'information qui est soumis à la personne. Elle signe ce protocole d'information. À tout moment, la personne peut se retirer d'un essai. Et là, encore une fois, on est à la fois dans la recherche, si on veut, parce qu'effectivement, Marc Lévesque et puis les gens qui travaillent sur ces différents domaines thérapeutiques sont dans l'expérimentation, mais on est aussi dans la thérapeutique, puisqu'il y a des résultats immédiats pour la personne. Et encore une fois, à tout moment, la personne a la capacité de se retirer d'une recherche, bref, même d'interrompre un traitement. Et c'est le cas parce qu'il y a aussi à ne pas négliger les effets secondaires que peut avoir une expérimentation thérapeutique de cette nature. On voit que certains ont le sentiment que leur comportement peut évoluer d'une manière un peu péjorative. Bref, on est dans la concertation. Il faut se dire qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on est en 2013. On a une loi qui est très importante, c'est la loi Kouchner de mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé. On a des textes très importants dans la recherche biomédicale. Et vous savez, les savants un peu fous, ils ont du mal à exister. Mais peut-être, et c'est un point peut-être sur lequel Marc Lévêque pourra intervenir, parce que je sais qu'il y est sensible, dans certains pays qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas des règles aussi strictes, on peut arriver à des déviances et à des dévoiements. C'est là où, encore une fois, l'éthique, c'est d'abord une question de démocratie, de justice et de respect des droits de la personne.
Je vais faire réagir Dr Marc Lévêque sur cette question, mais juste avant, en fait, ce qui s'est passé dans les années 1930-1940 sur la lobotomie ne pourrait plus se faire aujourd'hui.
D'abord, il faut replacer les choses dans le contexte et reprendre en compte, et chacun doit se poser la question à titre individuel ou pour un proche, quand vous avez une existence sociale qui est complètement compromise par une maladie, quelquefois, vous allez recourir à ce qu'on vous propose.
Alors, si c'est on est prêt à tout, c'est ça que vous voulez dire.
On est prêt relativement à tout. Donc les effets ensuite péjoratifs, les effets secondaires, sont à prendre en compte dans un contexte où vous avez des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus vivre. Quand ils sont absolument remis en cause de leur identité, qu'il n'y a pas un instant où ils ne souffrent pas, il y a également tous les problèmes de comportement, tous les problèmes de déviance. Et je trouve que c'est intéressant dans l'approche de Marc Lévêque, parce que peu de scientifiques et de médecins font ça. Il a vraiment analysé aussi le contexte culturel, notamment de la société américaine, et comment on analysait un certain nombre de dysfonctionnements du cerveau comme des dysfonctionnements d'ordre moral. C'est-à-dire comment on avait placé de la moralité dans des interventions chirurgicales.
Alors, quand vous dites et quelle moralité en plus ?
Oui, donc avec les références de l'époque, quand on considérait que l'homosexualité est de la perversion, quand on considérait que certaines formes de comportement n'étaient pas conformes à des normes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est quand vous posez la question, est-ce que ça ne serait plus possible ? Je pense que dans certains pays, ça peut être encore possible, lorsqu'il n'y a pas de la transparence et lorsqu'on n'est pas au niveau de l'exigence scientifique. Et un dernier point, aujourd'hui un chercheur, lorsqu'il a produit un élément de connaissance, il est obligé de le valoriser en publiant. Et maintenant, les revues scientifiques sont également de plus en plus conséquentes, exigeantes, pour savoir quels sont les critères qui ont été retenus pour recruter les personnes, quelles sont les méthodologies, comment on a évité à ce que la personne souffre. Bref, on
est. Ces revues scientifiques s'intéressent à l'éthique, donc.
Ah non, mais c'est fondamental. C'est-à-dire, vous savez que les comités d'éthique ont été mis en place par les revues scientifiques d'une façon à ne pas publier des recherches ou des résultats de recherche qui n'auraient pas été faits d'une manière éthique. Et juste, je vais citer le code de Nuremberg en 47. Sachez que dans les camps de concentration, on a fait aussi de l'expérimentation et elle était abominable. Donc vous voyez, c'est sur cette base-là qu'on a considéré que les règles d'éthique sont des règles fondamentales, et c'est là où il est important qu'un chercheur comme Marc Lévêque ne se contente pas uniquement de faire de la recherche, mais pense à l'impact de la recherche d'un point de vue sociétal, et se dote, c'est ce qu'on a fait avec l'espace éthique de la PHP, de groupes de travail qui vont approfondir ces questions, puisque de plus en plus, on va évoluer dans ces techniques.
Docteur Marc Lévêque.
Oui, non, en fait, philosophe là, Emmanuel Hirsch a très bien en fait résumé les enjeux et les problématiques que touche la psychochirurgie, et notamment effectivement certains pourraient y voir en fait un outil de normalisation des comportements. Donc il y a une voie actuellement assez étroite qui s'offre à la psychochirurgie. C'est d'une part, c'est un fantastique espoir pour beaucoup de patients, des patients qui sont atteints de maladies mentales. On sait que c'est parmi les pires souffrances que ça peut générer. Donc il y a cet espoir, et d'autre part, il y a aussi le fait que cet outil puisse être dévoyé de son rôle et être utilisé pour traiter certaines déviances. Donc, il y a un chemin à suivre, et c'est pour ça que les garde-fous éthiques et la transparence.
Le professeur Emmanuel Hirsch nous dit, effectivement, c'est la règle, enfin, c'est question d'éthique, dans certains pays, on ne sait pas trop ce qui se passe. Effectivement, il y a quelques pays qui peuvent poser problème sur ces questions-là.
Effectivement, c'est la transparence démocratique permet au comité d'éthique d'avoir une raison d'être et d'être. Alors c'est un petit peu, je reprends l'exemple de la presse, en fait ça peut être un formidable outil, la presse d'information, de transparence, comme ça peut être également un outil de manipulation, de propagande, suivant les régimes dans lesquels on se trouve.
Oui, Emmanuel Hirsch, je voulais réagir.
Mais Claire Hédon, je connais votre émission, c'est une émission sur RFI au plan international. Une des questions éthiques importantes est aussi l'accès à ces techniques. Et vous voyez, on parle des dévoiements de la technique. C'est une chose, et effectivement, il faut mettre en place toutes les sauvegardes possibles. Et encore une fois, c'est une question de démocratie, de formation des chercheurs, et puis de mobilisation aussi des associations qui sont très vigilantes à cet égard. Mais un des droits de la personne malade, c'est de bénéficier aussi de l'accès à ces techniques. Et pour l'instant, ce sont des techniques dont l'usage requiert des compétences qui ne sont pas partagées, donc également des coûts économiques très importants, c'est des interventions qui sont longues, et je pense que lorsqu'on est sur RFI, on a aussi à avoir cette sensibilité à comment ces techniques peuvent être mises à la disposition de personnes atteintes de maladies du tremblement, de maladies de Parkinson. C'est pas parce que nous on a la chance en France de disposer à la Pitié-Salpêtrière d'équipes, enfin notamment, mais c'est à Grenoble, dans d'autres villes, à Bordeaux que ça a été aussi développé, il faut qu'on ait aussi cette sensibilité. Et moi ce qui m'intéresse d'un point de vue éthique, c'est comment, si on acquiert des capacités d'intervention pour des maladies qui entravent l'existence totale des personnes, comment aussi partager ces connaissances. Et c'est aussi une responsabilité du chercheur, d'où l'importance d'écrire des bouquins, mais également de publier de la recherche. Et puis un autre point, là on est encore à une phase avancée, mais encore expérimentale, et probablement que les techniques vont se développer et devenir d'un accès plus facile, plus simple. Bref, je pense qu'il faut surtout tout faire pour ne pas entraver la recherche au nom d'une éthique grandiloquente, un peu transcendante d'Ayatollah. Il faut être très très attentif, mais surtout être en harmonie avec les chercheurs, c'est ce qu'on fait, et on ne dit pas a priori ça va être le dévoiement, et pour qu'il n'y ait pas de dévoiement, il faut qu'il y ait débat démocratique, et merci d'y consacrer une émission sur RFI.
Tout à fait, et professeur Emmanuel Hirsch, clairement ces techniques pour l'instant elles ne sont absolument pas disponibles en Afrique, hein, de façon très claire, et cette question de l'accès entre guillemets au traitement, nous on y est confrontés, je dirais absolument tous les jours dans nos émissions, et je suis très contente que vous disiez que c'est un problème éthique aussi, que l'accès au traitement n'ait pas lieu dans les pays en développement.
C'est que beaucoup de questions, et je pense que là aussi où il y a quelque chose d'important dans ces techniques, c'est qu'elles permettent d'acquérir des connaissances sur le cerveau qui permettront demain également de disposer de techniques peut-être moins lourdes au niveau chirurgical. Mais c'est ces connaissances, à mon avis, on l'a vu dans d'autres maladies. On parle de l'Afrique et du sida. Aujourd'hui, il y a eu quand même une mobilisation internationale qui permet un accès aux antiprotéases, aux trithérapies progressives, même si c'est insatisfaisant. Je pense que ce qui est important, c'est la démocratie également dans l'accès à ces techniques et la question de la justice. Et souvent, moi, quand je m'exprime, je dis qu'il y a quelque chose d'indigne parce qu'on bénéficie d'une manière assez sélective pour certaines personnes de techniques que certaines personnes aimeraient aussi pouvoir, j'allais dire, utiliser pour elles ou pour un proche. Et là, on a une vraie responsabilité. Alors, c'est pas des débats éthiques, ça, c'est des débats politiques. Et je pense qu'on ne fait pas d'éthique sans politique.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Hirsch. Et je vous rappelle que, quand vous voulez, vous venez plus longuement dans une émission nous parler de toutes ces questions éthiques. Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la psychochirurgie avec le docteur Marc Lévesque. Alors d'abord, rappelez-nous quelles sont les indications aujourd'hui de cette psychochirurgie.
Quand, dans le terme psychochirurgie, on entend psychiatrie. Donc, je vais avant tout parler des maladies psychiatriques, qui sont les troubles obsessionnels compulsifs, hein, les TOC, c'est-à-dire ces gens qui ont ces rituels de compter,
de fermer 15 fois la clé,
de vérification, etc. Donc une névrose, également la dépression. Alors quand on parle de la dépression, c'est pas la dépression saisonnière, c'est une dépression très sévère qui est rebelle à tous les traitements en médicamenteux et également et les thérapeutiques qu'on a évoquées tout à l'heure de RTMS et d'électrochoc. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont en cours d'investigation comme les addictions, notamment à l'héroïne, à la cocaïne, à l'alcool. Il y a des équipes allemandes qui travaillent sur cette thématique. Et puis l'anorexie. Hein, récemment, dans le Lancet, un journal médical assez connu et prestigieux, l'équipe de Toronto a publié les premiers résultats chez des patients anorexiques mentales, dans certains troubles violents. Et puis également, c'est pas tout à fait de la psychiatrie, dans l'obésité. Mais surtout, et c'est pour ça que là j'en reviens à la stimulation cérébrale profonde. Actuellement, une des principales indications de la stimulation cérébrale profonde, ça reste la maladie de Parkinson et certaines formes de tremblements.
Et là où on sait que ça donne de très bons résultats.
On sait que les résultats sont très bons. Et alors là, pour un petit peu rebondir sur ce que disait le professeur Emmanuel Hirsch, par exemple dans le Parkinson, dans le tremblement, grâce finalement au progrès de la stimulation cérébrale profonde, on a pu s'apercevoir que certaines méthodes de destruction, mais alors très sélective, pouvait donner des résultats équivalents. Et c'est ce qu'on fait avec un appareil comme par exemple le Gamma Knife, qui envoie des rayons très focalisés sur la même cible que la stimulation cérébrale profonde aurait prise. Et donc ça peut être un traitement qui peut être beaucoup plus accessible dans des pays avec moins de ressources.
Donc on comprend bien que cette psychochirurgie peut avoir de grandes possibilités, de grandes ouvertures sur pas mal de pathologies, tout ce qui peut être lié à ce qui peut se passer dans le cerveau. Quels sont les risques de dérapage ?
Les risques de dérapage, on les a abordés, c'est-à-dire que certaines pathologies qui peuvent être certaines déviances qui vont être dans certains pays, selon certaines cultures, considérées comme des pathologies. Qui dit pathologie dit traitement. Et dans la gamme des traitements, on a les médicaments et on peut avoir, dans ce cas-là, la chirurgie. Donc, par exemple, on y faisait allusion, il y a des essais qui ont été faits dans les années 50 jusque dans les années 70, de traiter. Alors que l'homosexualité était considérée comme une pathologie, était inscrite dans le DSM, qui est la Bible des psychiatres, de traiter ces patients. Alors ça peut être des cas beaucoup plus limites, qui sont difficiles, un petit peu comme par exemple la pédophilie. Est-ce que c'est considéré comme une pathologie? Est-ce que c'est considéré comme un crime? Est-ce que ça doit être traité? Et puis. Ça peut être les troubles agressifs. On sait que certains pays sont, comme par exemple des pays d'Amérique du Sud, sont confrontés à une violence endémique. Et l'attente de la part de la population et des politiques vis-à-vis de ces techniques peut être grande. Et on peut voir ces techniques effectivement dévoyées. Donc
voilà. Il y a des risques de dérapage, d'où l'intérêt de toutes ces questions de comité d'éthique pour limiter cette
psychochirurgie
dans le bon sens du terme.
Et je vais vous en donner une illustration. En 2004, un certain Medvedev, qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît, à Saint-Pétersbourg, avait commencé à traiter des patients toxicomanes avec des techniques irréversibles, c'est-à-dire des techniques lésionnelles. Il y a 300 patients qui ont eu des mutilations. Là, pour le coup, on peut parler de mutilation de la personnalité avec ces techniques qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'étaient pas encadrées éthiquement.
Donc, on le comprend, intéressant, mais attention. Merci beaucoup à Marc Lévesque. Je rappelle que vous avez publié Psychochirurgie aux éditions Springer et vous nous tiendrez au courant de l'évolution de ces techniques et des découvertes dans ce domaine. Merci. On va terminer en parlant des maladies oubliées.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose de parler d'un documentaire, La pharmacie des maladies oubliées, qui sera diffusé samedi, donc samedi 24 août, sur France 5, dans le cadre de la série L'Empire des Sens. Docteur Bernard Pécoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif de la fondation DNDI, qui est une initiative pour les médicaments contre les maladies négligées. Vous avez participé à ce documentaire, on vous connaît dans Priorité Santé, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois. Alors qu'est-ce qu'on met d'abord sous ce terme de maladies oubliées ?
Alors les maladies oubliées sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes et souvent très sévères, des grandes tueuses, mais qui touchent principalement, voire exclusivement les populations dans les pays en développement. Et c'est pour cela que la recherche a été abandonnée à la fois par le secteur privé, donc les entreprises pharmaceutiques, mais aussi le secteur public qui n'a pas su compenser et donc développer des nouveaux traitements pour ces populations et ces maladies.
Ça veut dire qu'elles sont oubliées parce que pas rentables ?
Elles ne représentent pas un intérêt effectivement économique. Par contre, bien entendu, elles entraînent de nombreuses morts et de nombreuses souffrances dans ces pays.
Alors que fait le DNDI ? Justement, ça a été créé pour répondre à ce problème-là.
Alors le DNDI a été créé pour développer ces traitements, non pas en créant un nouveau laboratoire, mais en faisant travailler ensemble les partenaires privés et publics, donc en obtenant du savoir-faire, de l'expertise de la part des laboratoires pharmaceutiques, en signant des partenariats avec eux et en combinant avec des partenaires du monde universitaire, mais aussi des programmes dans les pays, pour développer ces nouveaux traitements, adaptés aux populations qui vivent généralement en plus dans des zones assez reculées, même à l'intérieur de ces pays.
Alors, donnez-nous des exemples. Quels sont les médicaments que vous avez développés ?
Alors, en 10 ans, nous avons développé 6 nouveaux traitements, 2 pour le paludisme, qui sont des combinaisons d'artésunate avec un autre produit, qui sont des produits simples, puisque l'utilisation, parce qu'il s'agit de donner un comprimé par jour pendant 3 jours pour traiter une crise de paludisme. On a développé aussi un nouveau traitement pour la maladie du sommeil. Là, il faut savoir qu'on partait d'une situation dramatique, puisque le traitement utilisé était l'arsobal, de l'arsénic, donc qui tuait de par sa toxicité. On a pu développer une combinaison qui est beaucoup plus acceptable et qui est très efficace et qui est aujourd'hui utilisée dans 95% des cas en Afrique centrale.
Et d'autres, et le reste, vous nous avez dit 6 nouveaux traitements, donc 2 palus, 1 maladie du sommeil, il m'en manque 3.
Alors, 2 pour la leishmaniose viscérale, hein, un pour la zone africaine, qui a des caractéristiques, un autre pour la zone asiatique, autour de l'Inde, du Bangladesh et le Népal. Et enfin, le dernier, c'est une formulation pédiatrique, donc pour les enfants atteints de la maladie de Chagas en Amérique latine, donc qui est une maladie très fréquente en Amérique latine et dont la forme aiguë touche les jeunes enfants, très jeunes enfants, et il n'y avait que des comprimés pour les adultes, donc c'était extrêmement difficile à traiter les tout jeunes bébés.
Et est-ce que vous avez obtenu pour ces 6 nouveaux traitements que l'industrie pharmaceutique abandonne ses brevets ?
Alors pour chacun de ces traitements, on a signé des partenariats avec des industriels et chaque fois, ils ont accepté qu'il n'y ait pas de brevet et que d'autre part, ces médicaments soient mis à disposition à un prix raisonnable. Ce que j'appellerais prix raisonnable, c'est à prix coûtant plus une petite marge afin qu'il y ait une pérennité dans la distribution.
Et finalement, du coup, si l'industrie pharmaceutique accepte de travailler avec vous sur ces nouveaux traitements, c'est que ça peut finalement aussi être rentable pour elle. On imagine que c'est pas du bénévolat.
Alors, bien entendu, il y a une part de responsabilité sociale dans leur engagement, mais il y a aussi sans doute une vision plus stratégique, parce que il s'agit d'être présent dans ces pays, il s'agit d'être présent dans un grand nombre de pays du monde qui va représenter un marché pour le futur. Donc, bien entendu, je pense qu'il y a aussi une stratégie commerciale, mais il faut savoir que les populations atteintes ne représentent pas un marché aujourd'hui et ne vont pas représenter un marché demain. Donc, il faut trouver des solutions adéquates pour ces populations. Par contre, la présence dans ces pays est très importante parce que il y a un développement économique dans ces pays et potentiellement, donc, une vente d'autres médicaments dans ces pays.
Mais d'ailleurs, c'est plutôt bien que l'industrie pharmaceutiques se rendent compte que ça peut être rentable de s'intéresser aussi aux pays en développement.
C'est indispensable, puisqu'on a besoin d'un partenaire industriel pour répondre à ces questions de santé publique. On a besoin d'avoir d'un côté les programmes, les chercheurs du monde académique, mais travaillant avec des gens de l'industrie qui connaissent leur métier et qui augmentent les chances de réussite pour délivrer ces programmes.
Alors ce documentaire, justement, sur France 5, raconte un peu cette histoire, la pharmacie des maladies oubliées.
Oui, voilà. Ce documentaire, je pense, c'est une parfaite illustration d'abord des besoins, parce que le film s'est déroulé dans des pays comme la République démocratique du Congo, comme la Bolivie. Mais d'autre part, on explique aussi comment on s'y prend pour développer ces traitements et comment on les rend disponibles. Donc, je pense que pédagogiquement, c'est extrêmement bien fait. Et j'espère que ça permettra à un grand nombre de personnes de comprendre un petit peu d'une part la problématique, mais aussi donner de l'espoir, parce que il y a des solutions qui peuvent être trouvées.
Et justement, votre objectif, c'est de sensibiliser le grand public à ces questions-là. Comment vous arrivez-vous à vous financer, le DNDi?
Alors, bien entendu, c'est la grande difficulté. Il nous faut obtenir des fonds de manière pérenne. Donc, aujourd'hui, on a le soutien d'un certain nombre de gouvernements européens. On a le soutien de Médecins Sans Frontières depuis le début. On a le soutien de la Fondation Gates. Et nous essayons d'étendre le nombre de partenaires qui nous soutiennent, parce que qui dit recherche dit engagement sur le moyen terme, dit prise de risque, parce que il y a nombre de projets qui ne peuvent pas aboutir. Donc, il faut absolument avoir un portefeuille de projets afin d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans les 10 prochaines années pour amener d'autres nouvelles molécules. Donc, bien entendu, il nous faut le soutien du public, des gouvernements, des individus et des fondations.
Alors, avant de venir à vos projets, je voudrais juste une dernière question sur vos financements. Est-ce qu'avec la crise économique, ça a été un peu plus compliqué pour vous de trouver les financements ?
Alors, bien entendu, puisque, bon, pour citer un exemple, on avait le gouvernement espagnol qui nous soutenait depuis 7 ans.
Ils ont du mal, là, pour l'instant.
Qui a interrompu son soutien. Mais le fait que l'on ait diversifié dès le début nous permet de compenser un peu cette perte. Et je dois dire qu'une autre piste que nous développons à l'heure actuelle, qui est importante, c'est que les économies émergentes, comme le Brésil, comme l'Inde, sont très engagées dans notre projet. Et nous avons déjà reçu de l'argent du gouvernement brésilien. Nous espérons recevoir aussi de l'argent du gouvernement indien, parce qu'il faut savoir que ces pays ont à la fois le problème qui est présent dans leur territoire, ils ont une partie des solutions parce qu'ils ont des très très bons partenaires, aussi bien privés que publics, donc il est important que leur gouvernement s'engage.
Bernard Pécoul, vous l'avez dit, hein, en 10 ans, le DNDi a permis le développement de 6 nouveaux traitements. Quels sont vos projets aujourd'hui de nouveaux médicaments? Ça porte sur quelle pathologie?
Alors aujourd'hui, nous continuons à faire mieux pour la maladie du sommeil, parce que nous aimerions un traitement très très simple qui puisse être utilisé au niveau du village. Pour l'instant, on doit encore hospitaliser les patients pour les traiter. Nous travaillons par exemple sur une formulation pédiatrique pour le sida, parce qu'il faut savoir que le sida, il y a de nombreux nouveaux traitements, mais il n'y a pas de traitement adapté aux jeunes enfants qui sont touchés essentiellement en Afrique aujourd'hui, qui sont souvent en plus co-infectés avec la tuberculose, donc extrêmement difficile de prendre en charge un malade de sida aujourd'hui. Donc nous essayons de développer des formulations qui sont tout à fait adaptées à des contextes difficiles.
Et sur les maladies, justement, sur le sida des enfants, les recherches des laboratoires là-dessus est peu développée, parce qu'en fait, au Nord, on n'a pas de patients, d'enfants atteints.
Tout à fait. Il n'y a pratiquement plus d'enfants atteints de sida en Amérique du Nord, en Europe. La grande majorité, c'est-à-dire 300 000, 400 000 nouveaux cas par an, sont en Afrique. Et il faut savoir que le pronostic est extrêmement défavorable, parce que sans traitement, plus de 50% des enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 2 ans. Donc il est extrêmement important de les détecter, les traiter très tôt. Et s'ils sont traités, après, ils peuvent avoir une chance de survie tout à fait acceptable.
Merci beaucoup, hein, docteur Bernard Pécoul. Vous nous tiendrez bien sûr au courant des nouveaux traitements développés par le DNDi. Et je rappelle que donc samedi sera diffusé sur France 5 un documentaire, La pharmacie des maladies oubliées. Merci beaucoup. Lundi, on parlera de toute autre chose. On va parler du métier de psychanalyste. Quel est le plaisir pour les psychanalystes de faire ce métier? À quoi sert une psychanalyse? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois, ou bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Bon week-end. À lundi.